Chapitre 17. Florence Gallo. Et toi, mon cœur, pourquoi battu? Comme un guetteur mélancolique, j'observe la nuit et la mort. Guillaume Apollinaire. 1. Samedi 25 juin 2005. Je m'appelle Florence Gallo. J'ai 29 ans et je suis journaliste. Dans 8 heures, je serai morte. Mais je ne le sais pas encore. Pour l'instant, je suis assise sur la cuvette des toilettes, en train d'essayer d'uriner sur un test de grossesse. Quelques gouttes qui mettent un temps fou à venir tellement je suis anxieuse. Lorsqu'enfin j'ai terminé, je me lève et je pose le bâtonnet de plastique sur le rebord du lavabo. Dans 3 minutes, je saurai. Je sors de la salle de bain, prends mon mal en patience ainsi qu'une bouteille d'eau dans le frigo. Je fais quelques pas dans le petit salon, respire profondément pour me calmer. Je m'assois sur le rebord de la fenêtre et offre mon visage au soleil. C'est un beau samedi de début d'été. Coiffé d'un ciel bleu vif et parcouru d'une brise légère, la ville vibre d'une énergie positive. Je regarde les New-Yorkais affairés qui déambulent sur le trottoir. J'entends surtout des cris d'enfants en train de jouer qui montent depuis la rue. Et cela me met en joie comme si j'écoutais du Mozart. J'ai envie d'être enceinte. J'ai envie d'avoir un bébé, même si je ne sais pas comment Alan réagira. Une part de moi est folle de bonheur. Je suis amoureuse, enfin. J'ai rencontré l'homme que j'attendais. Je vis intensément chacun des moments que nous partageons. Et je suis prête à tout pour que notre histoire continue. Mais cette euphorie est teintée d'une culpabilité qui me casse les ailes. Je déteste ce que je suis, sa maîtresse, une femme qui, en conscience, est venue tourner autour du mari d'une autre. Jamais je n'aurais pensé me retrouver à jouer un rôle qui me renvoie avec douleur à ma propre histoire. J'avais 6 ans lorsque mon père a quitté la maison pour refaire sa vie avec l'une de ses collègues. Plus jeune, plus fraîche que ma mère. J'ai détesté cette femme, comme je déteste aujourd'hui cette impression que je vole son bonheur à une autre. Le carillon du téléphone fait refluer d'un coup ses souvenirs. Une sonnerie joyeuse que je ne reconnais pas tout de suite. Et pour cause, c'est celle que j'ai attribuée à l'appareil préparé de Joyce Carlyle, dont je n'attendais pas qu'il sonne avant une bonne heure. Je décroche, mais je n'ai pas le temps de prononcer le moindre mot. « Florence, c'est Joyce. Il a changé l'heure du rendez-vous. »« Comment ça, mais... »« Il arrive, je peux pas vous parler. » Comme je la sens affolée à l'autre bout du fil, je tente de la calmer. « Suivez exactement le plan que nous avons élaboré ensemble, Joyce. Fixez l'appareil sous la table de la salle à manger avec du ruban adhésif, d'accord ? Je vais essayer. Non, Joyce, n'essayez pas, faites-le. » Panique à bord. Moi non plus, je n'ai rien préparé. Je ferme la fenêtre pour ne plus entendre le bruit de la rue. Branche le haut-parleur du téléphone. Je m'installe sur le comptoir de ma kitchenette et ouvre le capot de l'ordinateur que m'a prêté mon petit frère. Edgar est à New York depuis 3 semaines. Après 3 ans d'études à Ferrandi, il a été embauché au café Boulu et squatte mon appartement en attendant de recevoir sa première paie. Mes gestes sont maladroits. Je n'ai jamais supporté les PC, mais Carrie, la femme d'Alan, a fracassé mon Mac hier après-midi en le balançant contre le mur de mon bureau. J'ouvre une application et branche le micro de l'ordinateur pour enregistrer la conversation. Pendant 1 minute, rien ne se passe. Je pense même que la communication a été perdue avant d'entendre une voix masculine, déterminée, agacée. Les minutes qui suivent sont électriques. Je suis sidéré par ce que j'entends. Puis la conversation dérape. L'argumentation fait place à la menace, aux cris, aux larmes. Et soudainement, je comprends que l'irrémédiable est en train de se produire. La vie qui sort des rails. La mort qui éclabousse. J'entends le hurlement déchirant de Joyce. Joyce qui appelle au secours. Joyce qui m'appelle au secours. Mes mains sont moites, ma gorge se noue. Un moment, je reste pétrifié, comme si j'avais du coton dans les jambes. Puis je bondis hors de l'appartement, je dévale l'escalier, le trottoir, la foule, le sang qui bat dans mes veines, la cabine téléphonique en face du Starbucks, passage piéton, bousculade, mes mains qui tremblent en composant le 911, puis ma voix qui lance d'un trait. « Je vous appelle pour vous signaler une agression violente au 6 Bilberry Street, dans la maison de Joyce Carlyle. Dépêchez-vous, on est en train de la tuer !» 2. Je ne contrôle plus mon cœur. Il cogne comme s'il cherchait à quitter mon corps en me transperçant la poitrine. Ascenseur en panne, l'escalier, je remonte dans mon appartement. Je colle le portable prépayé à mon oreille, mais il n'y a plus personne à l'autre bout du fil. Je tente de contacter Joyce, mais mon appel sonne dans le vide. Merde, que s'est-il passé ?
Je tremble. Je ne sais pas quoi faire. Me rendre sur place? Non, pas encore. Soudain, je prends conscience que je n'ai pas eu peur uniquement pour Joyce, mais aussi pour moi. L'impression que le danger est partout. Je connais bien cette sensation. Une intuition, un sixième sens, qui fait souvent la différence dans mon métier. J'attrape mon ordinateur et redescends sur le Bowery. Ne pas rester seul, utiliser la foule comme bouclier. J'entre dans le Starbucks, commande un café. Je trouve une place dans la salle, ouvre l'écran de l'ordinateur. Mon casque d'iPod sur les oreilles, je réécoute l'enregistrement. Effroi, affolement. En quelques manipulations, je le compresse et le transforme en fichier MP3. Gorgé de macchiato. Sur la facturette de mon café, je trouve le code Wi-Fi de l'établissement. Internet. Logiciel de courrier. Merde! Bien entendu, c'est le client de messagerie de mon frère qui s'ouvre et mes contacts ne sont pas enregistrés sur ce logiciel. Tant pis, mes doigts courent sur le clavier. J'importe l'enregistrement pour le mettre en pièce jointe et à toute vitesse, je tape l'adresse d'Alan. alan.kowalkowski@.net. Ça y est, le mail est parti. Je reprends ma respiration, puis j'appelle Alan sur son portable. 3 sonneries. Décroche, s'il te plaît. Répondeur. Je lui laisse un message. Je viens de t'envoyer un mail, Alan. Fais une copie de la pièce jointe. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Rappelle-moi. Je t'aime. Je ne peux pas rester ici. Je vais récupérer ma voiture garée dans une impasse derrière l'ancien CBGB et je vais conduire jusqu'à Harlem pour vérifier par moi-même ce qui s'est passé. Je remonte dans l'appartement pour prendre mes clés. Dans le couloir, de loin, je crois apercevoir une adolescente devant ma porte. Petite taille, un jean droit foncé, une chemise à carreaux Vichy, des Converse roses, un sac à dos en toile et un blouson Levi's cintré, comme celui que j'avais au lycée. Lorsqu'elle se retourne, je réalise que c'est une adulte et qu'elle a mon âge. Un visage lisse dont toute la beauté disparaît sous une frange brune et derrière des lunettes de vue Wayfarer. Cette femme, je la connais et je l'admire. Elle s'appelle Zora Zorkin. J'ai lu ses livres, j'ai écouté ses conférences, j'ai essayé à 10 reprises de l'interviewer, mais elle a toujours décliné mes propositions. Et aujourd'hui, je sais de quoi elle est venue me parler. Ou du moins, je crois le savoir. Mais je me trompe. Zorkin n'est pas venue pour parler. Elle s'avance vers moi d'un pas lent, et plus elle approche, plus je suis hypnotisé par ses yeux de serpent dont je ne saurais dire s'ils sont verts ou marrons. À présent, elle est à moins de 2 mètres de moi, et tout ce que je trouve à lui murmurer, c'est « Vous avez fait vite ?» Elle plonge la main dans la poche de son blouson, pour en sortir un pistolet à impulsion électrique qu'elle pointe sur moi avant de me dire « Vous êtes vraiment très jolie. » Cette situation est tellement surréaliste qu'elle me laisse pantoise. Mon cerveau n'arrive pas à considérer que tout cela est réel. Pourtant, Zora Zorkin presse la détente de son arme et les 2 dards du taser se plantent dans mon cou, libérant une décharge foudroyante qui me fait m'écrouler au sol et ouvre un grand trou noir. 3. Lorsque je reprends connaissance, j'ai l'esprit embrumé, corseté dans une gangue tissée de fils hypnotiques. Fiévreuse, j'ai la nausée et je tremble. Ma bouche est pâteuse et ma langue a doublé de volume. J'esquisse quelques mouvements. Ma colonne vertébrale craque comme si elle était en miettes. J'ai les bras entravés derrière le dos, les poignets menottés, les pieds retenus ensemble par un cerflex. Plusieurs tours de ruban adhésif en tissu ultra-résistant s'enfoncent dans ma bouche. J'essaie d'avaler ma salive malgré le bâillon. La panique m'envahit totalement. Je suis à l'arrière d'un véritable mastodonte. Une Cadillac Escalade aux vitres teintées qui, du haut de ses 2 mètres, domine la route et donne l'impression de survoler l'asphalte. La banquette est séparée de l'habitacle avant par une cloison de plexiglas. Pour une raison que j'ignore encore, je porte ma combinaison de base jumpeuse. Tout y est. Mon casque, le harnais intégral qui m'en serre les cuisses et les épaules, le sac contenant la voile plié à l'intérieur. Derrière la plaque transparente, je distingue la silhouette épaisse du chauffeur. Une carrure de militaire, la nuque rasée, les cheveux gris coupés en brosse. À ses côtés, Zora Zorkin a les yeux fixés sur l'écran de son téléphone. Protégé par mon casque, je tape de toutes mes forces avec ma tête contre la cloison. Zorkin me jette un bref coup d'œil, me regardant sans me voir, avant de replonger dans son cellulaire. En plissant les yeux, j'aperçois la pendulette fixée au tableau de bord. Il est plus de 10 heures du soir. La situation m'échappe. Quel est le sens de tout ça? Comment les choses ont-elles pu se précipiter ainsi? Je me déplace en rampant pour regarder le paysage qui défile derrière la vitre arrière. La nuit, une route isolée. Des sapins à perte de vue dont les pointes secouées par le vent se détachent dans un ciel d'encre. Au fil des kilomètres, je commence à deviner où nous nous trouvons. Si nous roulons depuis 6 ou 7 heures, nous avons dû traverser la Pennsylvanie, le Maryland et la Virginie de l'Ouest. Nous sommes dans les Appalaches, près de Silver River Bridge. Brièvement, je reprends espoir. Lorsque j'aperçois une autre voiture derrière nous, je tape contre la vitre arrière pour attirer son attention, puis en y regardant de plus près, je reconnais ma petite Lexus rouge métallisée et je réalise qu'elle nous suit. Là, soudain, je comprends quel est leur plan et je me mets à pleurer. 4. J'avais vu juste. Depuis 20 minutes, avec ma propre voiture dans son sillage, l'énorme 4x4 grimpe les pistes escarpées du Silver River Park. Les deux véhicules se garent bientôt l'un à côté de l'autre, sur le promontoire désert qui domine la vallée et permet de descendre vers la rampe d'accès du vieux pont. Une fois le contact coupé, tout s'enchaîne très vite. Le militaire, que Zora appelle Blunt, ouvre la portière latérale du SUV et m'attrape par la taille avec une force surhumaine pour me hisser sur son épaule et me conduire sur le pont. Aux aguets, Zora Zorkin marche à quelques mètres derrière nous. J'essaie de hurler, mais dès que j'ouvre la bouche, le Chatterton me taillade la commissure des lèvres. De toute façon, ça ne servirait à rien. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. À cette heure-ci, c'est un peu la même chose au Silver River Park. Jusqu'au dernier moment, je refuse de croire en l'inéluctable. Peut-être veulent-ils seulement me faire peur? Mais on ne parcourt pas 600 kilomètres pour faire peur à quelqu'un. Comment ont-ils pu avoir cette idée? Comment ont-ils su? Pour ce lieu, pour ce sport, facile, ils ont simplement fouillé mon appartement, trouvé mon équipement, mes photos et mes cartes annotées. Arrivé au milieu de la structure d'acier, Blunt me balance au sol. Je me relève et essaie de m'enfuir, mais à cause de mes liens, je m'écroule presque aussitôt. Je me redresse. J'entends la rivière d'argent qui coule 300 mètres plus bas. La nuit est splendide, très claire. Un ciel dégagé, un froid sec, une lune presque pleine, lourde. Immense. Zora Zorkin me fait face sur le pont. Elle a enfoncé ses mains dans les poches d'une veste barbour en coton enduit et porte une casquette de baseball de la NYU, l'université dans laquelle elle a fait ses études. Je lis dans son regard une détermination sans faille. Pour elle, à cet instant, je ne suis pas un être humain, seulement un problème qu'il faut régler au plus vite. Je suffoque, je transpire. Je me pisse dessus. Une vision d'horreur cannibalise mon esprit. Mon sang se fige. Ce que je vis est de l'ordre de l'impensable, au-delà de la panique. Mon corps est raide, presque paralysé. Alors que le Chatterton vient de céder, je jette mes dernières forces pour me traîner devant elle. Je hurle, je me prosterne, je la supplie, je l'implore. Mais son indifférence est glaçante.
On y va,
lance Blunt en se penchant vers moi et en tranchant le filin de l'extracteur du parachute. Je ne peux rien faire. C'est une masse taillée dans la roche, un colosse qui lui aussi est pressé d'en finir. Et c'est là que l'impensable se produit. Avant de laisser le bourreau faire son office, une lueur s'allume dans les yeux de Zora. « Je ne sais pas si vous êtes au courant, » me dit-elle. « Si ce n'est pas le cas, j'ai pensé que vous aimeriez savoir. » Je ne comprends pas à quoi elle fait allusion, jusqu'à ce que, joignant le geste à la parole, elle sorte quelque chose de sa poche. Mon test de grossesse. Il est positif. Vous êtes enceinte, Florence. Félicitations. Pendant quelques secondes, je reste figé, interdite. Je n'appartiens plus au monde. Je suis déjà ailleurs. Puis, presque dans un seul mouvement, Blunt coupe mes liens, m'attrape par les jambes, me soulève et me fait passer par-dessus la rambarde. 5. Je tombe. Et je ne pense même pas à crier. D'abord, la terreur m'empêche de penser. Puis, Les quelques secondes que dure la chute se dilatent, et peu à peu, je me fais plus légère. La peur se transforme en nostalgie. Je ne revois pas ma vie en accéléré. Je repense juste à tout ce que j'aimais. La clarté du ciel, le réconfort de la lumière, la force du vent. Je pense surtout à mon bébé. Le bébé que je porte dans le ventre et qui va mourir avec moi. Pour ne pas pleurer, je me dis qu'il faut que je lui trouve un prénom. Le sol se rapproche. Désormais, je ne fais qu'un avec le ciel, les montagnes, les sapins. Je n'ai jamais cru en Dieu, pourtant à cet instant, j'ai l'impression que Dieu est partout. Ou plutôt que la nature est Dieu. Une demi-seconde avant l'impact, j'ai une révélation. Mon bébé est une fille. Elle s'appellera Rebecca. Je ne sais pas encore où je vais, mais j'y vais avec elle. Et ça me fait moins peur.